Jusqu'au 31 mai avec Audi Now, repartez sans attendre au volant de l'Audi dont vous avez toujours rêvé. Profitez notamment de l'Audi A1 Sportback à partir de 290€ par mois avec apport. Rendez-vous chez votre partenaire Audi.
Offre location longue durée valable du 21 au 31 mai 2024 pour une Audi A1 Sportback 25 TFSI Advanced. Premier loyer de 3 000€ suivi de 36 loyers de 290€ réservé aux particuliers sur 30 000 km dans le réseau participant sur une sélection de modèles disponibles en stock. Sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank. Conditions sur Audi.fr. Now signifie maintenant.
Au quotidien, prenez les transports en commun.
BFM Business présente l'émission qui vous sort de votre boîte. Happy Boulot, le mag, Laure Closier.
Bonjour à tous et bienvenue dans Happy Boulot le mag. Cette semaine, on va parler d'innovation dans les RH. Connaissez-vous SOR, une boîte qui travaille dans l'eau et qui a supprimé la période d'essai pour faire monter son attractivité. On sera avec son DRH dans un instant. Et puis les managers ont-ils lâché le command and control? Ils le disent, mais est-ce qu'il le faut vraiment? C'est la question qu'on va poser à Marc Sabatier, président de Juliette Sterwen. Recruter, est-ce que c'est vraiment le boulot du DRH ou est-ce que tout le monde peut le faire? On va parler recrutement collaboratif avec Antoine Poiron, il travaille chez Pixi. Happy Boulot, le mag, c'est parti.
BFM Business, Happy Boulot, le mag, l'exécutif de la semaine.
Et notre exécutif de la semaine, c'est Xavier Savigny, DRH de SOR. Bonjour, SOR, c'est un spécialiste de la distribution de l'eau, 12 000 collaborateurs dans le monde. Vous avez pris en mars une décision étonnante, laisser tomber la période d'essai pour recruter. On est 5 mois après. Est-ce que c'était une bonne idée?
C'était une bonne idée et la preuve, c'est que maintenant, on a pérennisé cette expérience. On a démarré un petit peu en phase pilote en se posant la question, est-ce que ça a fonctionné? Ça a très, très bien fonctionné et de ce fait, maintenant, c'est acté pour toute l'entreprise, tous les niveaux dans l'organisation, tout candidat qui vient chez nous recruter sans période d'essai.
Alors revenons un peu en arrière. En mars, vous dites quoi? Votre objectif, c'était 1000 personnes à recruter sur l'année. Vous dites, il faut absolument qu'on soit attractif. On n'y arrivera pas seulement en s'appelant SOR.
En fait, c'est venu un petit peu plus tôt. C'est venu pendant la Covid. On se posait beaucoup de questions à l'époque. C'était une situation assez difficile pour beaucoup de jeunes. Et avec mon patron, le CEO, on s'est dit, tiens, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc déjà, première réflexion, on est passé de 200 à 300 alternants, alors que c'était des conditions économiques qui étaient difficiles, parce qu'on s'est dit, c'est le meilleur moyen d'intégrer les jeunes dans l'entreprise. Et puis, on s'est aperçu assez rapidement qu'il y avait un certain nombre de jeunes qui avaient des difficultés à se loger. Parce que nous, on est présents auprès de 10 000 communes, donc partout sur le territoire. Et quand un jeune rentre dans l'entreprise évoluée, la première chose qu'on va lui poser, c'est finalement, est-ce que c'est en période d'essai? Et puis, progressivement, l'idée a fait un peu son chemin. Et puis, avec ma directrice du recrutement, on s'est dit, si on supprimait la période d'essai? Un peu en plaisantant.
C'était quoi la règle avant chez vous? C'était 3 mois renouvelables?
Ça dépend des catégories professionnelles, mais ça allait jusqu'à 8 mois pour les cadres, 4 mois renouvelables. Donc c'est quand même assez conséquent.
C'est très très long, oui.
Ça peut être très très long. Et j'imagine que quelqu'un qui est expérimenté et qui nous rejoint se dire, change au bout de 15 ans d'entreprise et puis je dois faire 8 mois de période d'essai, compliqué quand même. Donc on a regardé. Et puis, à notre grande surprise, on s'est aperçu que c'était pas obligatoire.
Mais oui, en fait, dans le code du travail, c'est possible. Ça peut comporter une période d'essai, mais c'est pas obligatoire.
Exactement. Parce qu'on n'avait jamais vu aucune entreprise le faire, à ma connaissance, il n'y en a pas eu en France. Et on s'est dit pourquoi pas. Puis après, j'ai discuté avec le CEO qui était, comme vous pouvez l'imaginer, très en soutien de cette initiative, avec le comité de direction. Et puis on s'est dit, on y va. On va se lancer sur ce sujet. Ça venait à l'aboutissement d'un process de recrutement qu'on avait changé, qu'on avait modifié, qu'on avait simplifié. Et on s'est dit, on va jouer le parti de la confiance. Voilà.
Et vous n'êtes pas dit, comme n'importe quelle entreprise, je prends un risque d'avoir des candidats qui ne fonctionnent pas, dont je ne saurais pas quoi faire.
Toutes les entreprises prennent des risques, sinon vous faites
pas... Oui, mais elles essayent d'en prendre le moins possible, notamment sur les recrutements ratés qui coûtent cher.
Oui, c'est vrai, mais je crois qu'au contraire, notre expérience, nous, c'est que c'est en fait très positif. C'est pour ça que finalement, on l'a pérennisé. On s'aperçoit qu'on a divisé par 3 notre taux de départ, et je pense que ça, c'était un point clé. Parce qu'en fait, quand on prend ce parti de la confiance, vous responsabilisez le manager, vous responsabilisez le recruteur et vous responsabilisez le candidat. Et donc, quand tout le monde se dit, finalement, on va vraiment savoir et s'assurer qu'on a un bon fit tous ensemble, ça fonctionne mieux.
Ça veut dire que personne ne se dit plus, tiens, je vais essayer et puis je vais voir. Il y a une réflexion plus en amont.
Exactement, c'est un risque quelque part. Quand vous êtes dans une entreprise, on a la chance, nous, de recruter et de se développer. Quand ça va très vite, vous êtes tendance à dire, recrute-moi quelqu'un. Ouais, sauf que là, maintenant, entre le manager et le recruteur, il y avait un vrai dialogue, il y a un vrai échange qui se passe en disant quel profil je veux, comment ça va s'intégrer dans l'équipe, quels sont les avantages et les inconvénients par rapport à l'équipe que j'ai. Donc, vraiment quelque chose d'approfondi.
Donc ça, ça a changé. Il y a plus de travail en amont. On se dit pas, bon, bah, si ça marche pas, de toute façon, il y a toujours la période d'essai. Mmh. Donc on réfléchit en amont vraiment à la personne qu'on veut.
Exactement. Et ça, ça se fait au niveau du manager, au niveau du recruteur, qui du coup ose poser plus de questions en disant, mais t'es sûr que tu veux vraiment ce type de profil, et ainsi de suite. Et donc ça, je pense que cette confiance et ce binôme qui s'établit, c'est extrêmement important. Et puis l'autre point, comme vous le dites fort justement, c'est que le manager, il se dit, bon, bah là, c'est une vraie décision importante, c'est ma décision. Et donc, quand il voit le candidat, il se dit, je prends pas, mais quand on prend, c'est pour longtemps. Et l'idée est la même pour le candidat. Donc, bien évidemment, il faut que la personne se dise, ouais, ça fit bien avec l'entreprise, ça fit bien avec mon manager, et c'est pour ça que je vais rentrer chez ça.
Donc, moins de départ après le période d'essai, et des candidats qui sont reconnaissants, qui sont contents.
Moi, j'ai quelques expériences assez géniales. Hein. On a fait, moi, ce que j'appelle un speed recruitment. On a fait une journée assez exceptionnelle. On a invité des candidats, et il y avait le CEO, le directeur général adjoint, la directrice du développement et moi-même, et on a fait toute une journée de recrutement. Et à la fin de la journée, on a proposé aux candidats qu'on avait sélectionnés un contrat immédiatement à signer. On avait signé le contrat, on leur faisait l'offre immédiatement. Et certains sont venus nous voir en disant, excusez-moi, mais je crois qu'il y a une petite erreur, il n'y a pas de période d'essai dans le contrat, on fait une erreur. On leur a dit non, il n'y a pas de période d'essai, on fait confiance, vous venez. Et alors là, vous avez le sourire des gens, c'est assez génial. Donc en tant que DRH, ça c'est beau.
Du coup, vous avez monté votre niveau de... Vous avez recruté encore plus de gens.
Tout à fait. On a la chance d'être une entreprise en croissance, donc je dirais quand il faut recruter, c'est un bon problème pour les DRH. Et donc on va recruter 2000 personnes d'ici la fin de l'année.
Et vous avez vu votre niveau d'attractivité augmenter, c'est-à-dire que vraiment, est-ce que ça se passe en bouche à oreille, va chez Sor, il n'y a pas de période d'essai, ou est-ce que les annonces sont plus attractives?
On commence à avoir un petit peu de buzz maintenant, c'est clair. Au départ, on le faisait comme ça entre nous, sans le mentionner, et maintenant on reçoit de plus en plus de candidatures spontanées. Donc je pense que le bouche à oreille fonctionne, et puis c'est vrai qu'il y a un petit impact médiatique qui aussi nous aide beaucoup.
Vous qui avez donc tous ces jeunes en alternance et en contrat en CDI chez vous, comment vous les voyez évoluer dans l'entreprise? Ils sont difficiles, comme on parle de la génération Z, ou finalement ça va, ça se passe bien?
Non, moi je pense que franchement ça se passe très bien. On a la chance d'être dans des métiers qui sont des beaux métiers. Le métier de l'eau, c'est quand même un métier qui fait rêver beaucoup de personnes qui nous
rejoignent. Vous avez la raison d'être en soi, quoi.
Ouais, bah notre mission c'est quand même de défendre l'eau. Hein. Moi je le résume très simplement. Hein. En 3 semaines, si vous mangez pas, vous périssez, mais en 3 jours sans eau, c'est fini aussi. Donc préserver l'eau, c'est quand même indispensable. On en parle de plus en plus. Et on a beaucoup de jeunes qui vraiment cherchent un sens dans le métier qu'ils vont faire. Et quand ils nous rejoignent, je crois que l'eau, c'est un bien naturel, essentiel pour tous. Et de ce point de vue-là, ça aide.
Mais à tous les postes, c'est-à-dire qu'on n'est pas toujours convaincu par la raison d'être de son entreprise. Enfin, ça dépend du poste qu'on a.
Et je vous rejoins, j'ai été surpris aussi, mais moi, je vois des candidats très, très expérimentés qui me disent, bah, écoutez, moi, il y a quelque chose qui m'attire dans votre entreprise, c'est votre envie de protéger l'eau, de défendre l'eau. Et donc, je pense que cette quête de sens, elle n'est pas propre, bien sûr, à Sor, mais c'est propre à notre environnement. Et je pense que toutes les générations aujourd'hui cherchent un sens à un métier qu'ils exercent.
Vous avez travaillé dans beaucoup d'entreprises différentes, Otis, Bureau Veritas, Score, mais toujours dans les RH, c'est toujours votre truc.
Ouais.
Vous avez toujours envie de gérer des gens.
Ah, c'est fascinant. Enfin, franchement,
c'est fascinant, mais c'est pénible de temps en temps.
C'est un métier qui est parfois effectivement difficile, parce qu'on a des missions et on a des actions à entreprendre qui sont jamais faciles. Il y a toujours de problèmes dans la RH, soit vous décrutez pas assez vite, soit vous recrutez pas assez vite. Moi, j'ai la chance aujourd'hui.
Décruter.
Ouais.
Vous dites pas virer, se séparer, vous dites décruter.
Je crois que ce serait quelque chose qui est manquer de respect aux gens. Donc, je pense qu'il n'y a pas de raison, si on recrute, on doit décruter.
D'accord.
Et un des plus beaux plaisirs dans ce métier, et moi j'ai la chance de l'avoir exercé depuis maintenant plus de 25 ans, c'est de voir des gens grandir, se développer. Et j'allais presque dire, excusez-moi l'expression, mais c'est quelque part voir ces gens qui poussent, qui grandissent, qui se développent, qui s'étoffent. Et ça, dans notre métier, c'est fantastique. Je crois qu'il n'y a aucun autre métier qui peut l'offrir.
L'enjeu de cette rentrée quand même de septembre, c'est de faire, en octobre, mais de faire bosser les gens ensemble, de leur redonner l'envie de bosser. Il y a beaucoup de DRH qui disent plus personne n'a envie de travailler, je ne gère que des gens qui veulent baisser leur temps, ne plus venir au bureau, etc. Qu'est-ce que vous voyez, vous?
Moi, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de bosser. Après, c'est la manière dont ils bossent. Et je crois que ça, c'est un des grands enjeux qui s'est manifesté par ce qu'on a vécu pendant la période du Covid. On est passé d'une phase où il y a des gens qui rêvaient du télétravail et qui maintenant se disent « Oh, bah, oui, c'était bien, mais moi, j'en ai un peu moins envie et j'ai plus du tout envie de le faire. » Mais je pense qu'on ne reviendra pas comme avant. Et puis là, je rejoindrai l'effet de génération que vous évoquiez tout à l'heure. Je pense qu'une génération qui a un mode de fonctionnement qui est différent peut-être de ma génération. Nous, on a mis en place ce qu'on appelle les Next Gen Voices. C'est des moins de 30 ans qui viennent quelque part nous challenger au comité exécutif. Et ça, ça nous aide beaucoup à comprendre ce qui se passe et à voir qu'effectivement, je pense que tout le monde a toujours envie de bosser, mais peut-être de manière différente. Non, ça fait partie des hauts potentiels de l'entreprise. Et donc,
Donc vous avez établi une liste de gens jeunes mais à haut potentiel qui viennent vous poser des questions au comité de direction.
On les fait participer à l'ensemble de nos comités trimestriels, en comité exécutif. Ils viennent, c'est un groupe d'une vingtaine de personnes, ils ont chacun des projets à mener, qui viennent nous présenter et parallèlement, ils viennent aussi nous challenger sur un certain nombre de décisions qu'on peut prendre.
Et donc c'est pour de l'innovation interne aussi, c'est-à-dire qu'ils ont des projets potentiellement d'entrepreneurs qu'ils vont pouvoir développer.
Tout à fait. Et puis ça nous apporte un regard, parce que finalement, cette génération, c'est celle qui va nous succéder à un moment ou à un autre. Et l'idée, c'est de travailler avec eux pour se dire, mais quelle entreprise vous voulez? Et qu'est-ce que vous voulez qu'on vous lègue finalement? Et c'est ça qui est intéressant, on s'aperçoit que, moi je pense qu'ils ont toujours envie de travailler, c'est simplement que leur mode de fonctionnement n'est pas forcément celui que moi j'ai connu et qui restait le mien depuis un certain nombre d'années.
Mais ça maintenant. Vous challenge, ça vous-même, vous vous dites, faut que j'évolue dans ma manière de manager mes équipes, de contrôler, de...
Bien sûr, enfin, moi je suis pas dans le contrôle, donc je suis plus dans la responsabilisation et la confiance, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, mais bien sûr, ça nous fait évoluer. Et je pense que c'est essentiel, une entreprise qui évolue pas et si la mentalité chez nous n'évolue pas, on survit pas.
On va continuer à parler contrôle. Est-ce que le command and control a disparu dans notre prochaine partie Better Together? Merci beaucoup d'être venu nous voir, Xavier Savigny, DRH de Sort. Vous avez reçu le prix de l'innovation RH de l'année par Cadre Emploi grâce à la suppression de la période d'essai. J'espère que ça va faire des petits. Parce que c'est quand même très pénible d'aller voir son banquier, de devoir demander à son employeur une attestation pour dire qu'on n'a pas démissionné ou qu'on n'est pas en période d'essai. C'est un petit message personnel. Merci beaucoup Xavier Savigny.
Merci.
BFM Business. Happy Boulot, le mag. Better Together.
Les managers ont-ils vraiment lâché le command and control? On va en parler avec Marc Sabatier. Bonjour, vous êtes président de Juliette Sterwen. C'est un cabinet de transformation et de management. On entendait juste avant un DRH qui dit « Moi, je ne commande pas, je responsabilise mes équipes ».
Alors,
on ne peut que le croire sur parole et espérer que ça soit vrai, mais est-ce que c'est la réalité?
Bon, la réalité, elle est assez contrastée, on va dire. Nous, on est de bons observateurs en fait du fonctionnement des entreprises et en particulier de leur mode de management et puis de la manière avec laquelle se prennent les décisions. Et non, on peut pas tout à fait dire ça. En fait, ce qu'on voit quand même le plus souvent, c'est encore bien accroché culturellement des managers qui effectivement contrôlent, donnent des objectifs. Ça peut paraître normal, mais qui sont pas forcément des managers, on peut dire aidants. Forcément toujours solidaires de leurs équipes. Maintenant, soyons clairs, la tendance va plutôt vraiment dans le bon sens. Et j'ai même envie de dire que la crise sanitaire qui se termine, je l'espère, va aussi permettre à ces managers qui ont vécu quand même des heures très compliquées, j'ai envie de dire encore plus que leurs collaboratrices et leurs collaborateurs, ces managers vont encore plus être enclins effectivement à être proches de leurs équipes, à travailler leurs équipes, à définir leur organisation avec leurs équipes, à résoudre leurs problèmes avec leurs équipes. Donc on va clairement dans le bon sens, ça c'est la bonne nouvelle.
Vous parlez du manager qui n'est pas toujours en soutien de son équipe, ça fait partie des principales critiques des salariés vis-à-vis de leur chef, un chef qui est plutôt un œil de Moscou qu'un soutien des équipes. Est-ce que ça vraiment ça change? Est-ce que la crise sanitaire a aidé?
Oui, la crise sanitaire a aidé parce que de toute façon l'œil de Moscou il se reporte pas à 3 km des locaux de l'entreprise, donc de ce point de vue-là ça a aidé. Puis ce qui aide surtout au-delà de la crise sanitaire, c'est surtout le fait que la culture managériale change, mais même la manière avec laquelle les organisations travaillent change aujourd'hui. Moi j'aime bien dire qu'on est au bout d'un système. Les organisations traditionnelles sont un peu à bout de souffle. Tout le monde se plaint des organisations traditionnelles qui encouragent à la responsabilité, mais parfois ne donnent pas le cadre organisationnel ou de management qui permet en vrai d'être responsable. Enfin, c'est ce qu'on...
C'est comme avec les enfants, il faut donner des règles, sinon après c'est le bazar.
Il faut donner un cadre, c'est ce qu'on dit toujours pour les enfants, donner un cadre, mais pas forcément dire tout ce qu'il faut faire tout au long de la journée. Ça, encore une fois, ça évolue beaucoup, et la prise de conscience en fait des dirigeants, parce que c'est à ce niveau-là que ça se passe, qu'il faut aller vers des modes d'organisation différents, qui responsabilisent vraiment avec une responsabilité assumée. Très difficile d'assumer la responsabilité, de donner la responsabilité pour de vrai. C'est très facile de le dire. beaucoup plus difficile de le faire, en réalité, de donner une vraie autonomie. Et il y a quelque chose qui est important et qui retient aussi les managers, c'est tout simplement la manière avec laquelle ils ont évolué pour être manager. Quand moi, quand j'ai commencé à travailler, je regardais les managers et je me disais, tiens, moi, c'est ça que je veux être manager. Et en fait, toute ma vie, j'ai appris les codes en fait de ce management que vous raillez un petit peu. Mmh. Voilà. J'ai appris ces codes-là. Donc, quand on devient manager, c'est très difficile de se dire, ben, je serai pas celui-là, je serai un autre. Enfin, c'est tout à fait humain, en fait, de poursuivre dans une culture qu'on a apprise pendant des années et des années. Et les choses se transforment, et ça nécessite forcément un fort désapprentissage d'un certain nombre d'habitudes.
Ah, surtout que c'est brutal. C'est un désapprentissage surtout, un peu brutal.
Surtout que c'est brutal.
Vous parlez de l'autonomie, du besoin de responsabiliser, oui. Que c'est difficile. Est-ce qu'il faut aussi accepter l'échec? Parce que ça veut dire qu'à partir du moment où on dit, bah, tu fais ce que tu veux, tu t'organises comme tu veux, il faut accepter que les gens se plantent.
Oui, alors moi je ne suis pas favorable à ce que les gens fassent ce qu'ils veulent. C'est pas ça pour moi le. Enfin, si ça peut conduire à l'échec. Je fais une grosse différence entre la faute et l'erreur. Chez nous, dans notre organisation à nous, qui est un peu particulière, c'est un peu long d'en parler maintenant, mais la différence entre la faute et l'erreur, c'est que quand on est responsable de ce qu'on doit faire, effectivement, on le fait à sa façon. Et ça, c'est une vraie demande, en fait, des collaboratrices et des collaborateurs, de faire à leur façon et pas avec la règle qu'ils trouvent aberrante.
Donnez-moi le but, je ferai le chemin.
Exactement, je ferai le chemin. Exactement, je ferai le chemin moi-même. Nous, ce qu'on dit, c'est que ils doivent faire ce chemin eux-mêmes. En revanche, ils doivent, s'ils pensent que la définition de ce chemin a une sensibilité pour l'entreprise, ils doivent prendre des avis de personnes pertinentes. Pas forcément leur chef, leur manager, mais des avis de personnes pertinentes. Ils en font ce qu'ils veulent, j'ai envie de dire, mais comme un manager, comme un dirigeant, ils vont faire leur propre choix. S'ils se plantent, c'est une faute. C'est pas une erreur, en fait. Pardon, c'est une erreur, c'est pas une faute. Je suis désolé.
La faute, c'est plus grave.
La faute, c'est plus grave. C'est quand je choisis ce chemin, que j'ai compris qu'il y avait une sensibilité pour l'entreprise, mais j'ai demandé des avis à personne. Et là, je suis pas dans le collectif, j'ai pas testé en fait mes idées, et là, c'est une faute.
C'est-à-dire celui qui travaille seul se plante en fait. Contre ça, il faut obliger la communication, voilà. les
explications. C'est comme ça qu'on le modélise, voilà. Oui.
Mais il y a des gens qui pensent qu'ils sont meilleurs tout seuls.
Sans doute.
Mais c'est une erreur, voire une faute.
Je sais pas, vous en pensez quoi?
Mais non, je sais pas, moi je ne suis pas expert en management.
Non, mais bien sûr, on est toujours meilleur. Enfin, c'est vrai dans le sport, c'est vrai dans le travail, c'est vrai partout, on est meilleur à plusieurs que seul, c'est une évidence. Et les autres sont aussi des garde-fous. Les autres, c'est l'ouverture des champs des possibles, c'est la diversité des points de vue. Aujourd'hui,
seul... Parce que parfois, ça amène au problème de prendre une décision. Quand on a tout le monde qui donne son avis sur son dossier ou sur le chemin à faire, en fait, on n'arrive pas à avancer. Tout le monde a un avis différent. Il y a plusieurs chefs, on ne sait pas où on va. Parfois, c'est contre-productif.
Parce qu'il ne faut pas demander à tout le monde. Il faut choisir quelques personnes pertinentes, suffisamment, mais pas tout le monde. Tout le monde, c'est la cohue, c'est le chaos même. En revanche, si vous demandez sur, par exemple, à 2, 3, 4, 5 personnes finalement, peut-être les personnes qui auraient fait partie d'un comité, qui n'existerait plus d'ailleurs, demain, ces personnes qui auraient fait partie d'un comité, vous testez votre idée, vous dites « je pense que je vais le faire de cette façon-là ». Oh, tu crois ? Ben oui, vas-y. Ou bien fais attention à ça, pense à ceci. Ben là, je pense que vous êtes dans le vrai, vous avez ouvert le champ des possibles, vous avez récupéré les idées des autres, vous êtes évité un comité. Un comité, c'est souvent quelque chose qui vient prendre la place de la responsabilité d'un manager, hein, parce que je suis manager d'une équipe, mais en revanche, mes décisions sont prises dans un comité. Non, en fait, il faut jouer collectif, il faut poser des questions, il faut interroger son entourage et décider, comme un manager finalement, décider du bon chemin à prendre.
Du vrai travail de management, c'est de la décision.
C'est de la décision, alors c'est pas que de la décision. Le travail du manager, alors le pauvre, il a beaucoup de choses à faire, le manager. Il a à prendre des décisions, il a à piloter son activité, il a à recruter.
C'est l'inventaire à la
Prévert. Il a parfois géré des conflits, il a à aider ses collaborateurs, il a à leur donner le sens de leur travail, il est là pour les écouter, les soutenir, en particulier dans les périodes actuelles. Mais pourvu que cette période actuelle se perpétue de ce point de vue-là, le manager est là pour soutenir, pour aider à ce que son équipe délivre.
Merci beaucoup Marc Sabatier d'être venu nous voir, président de Juliette Sterwen, cabinet de transformation en management. On va continuer à parler des pratiques du RH qui se transforment avec le recrutement collaboratif.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. Business Case.
Qui doit recruter dans une entreprise? Est-ce que c'est vraiment le job du DRH ou est-ce qu'il y a des gens qui seraient mieux placés finalement pour faire venir des nouveaux talents? On en parle avec Antoine Poiron. Bonjour, vous êtes directeur offre, sourcing et partenariat chez Pixid. Qui doit recruter dans une entreprise?
Alors aujourd'hui, tout le monde doit recruter. C'est plus uniquement le travail des RH et la responsabilité des RH. On a fait une étude l'année dernière avec Acton, un cabinet de recrutement, enfin un cabinet spécialisé dans les RH, ceux qui ont répondu, toutes les entreprises qui ont répondu au sondage, on s'est aperçu que plus les organisations étaient centralisées, ou donc le recrutement était géré par les RH uniquement, engendrait de l'insatisfaction côté des équipes de management et opérationnelles. Donc aujourd'hui, il faut bien évidemment avoir des processus beaucoup plus collaboratifs pour pouvoir recruter vite et efficacement.
C'est la fameuse critique des candidats. J'ai été reçue par les RH, ils n'ont même pas compris le métier que je devais faire, ils ne savaient même pas dans quelle équipe, etc.
Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, la connaissance métier, elle est plutôt côté chef d'équipe ou manager qui va donc bien évidemment connaître le besoin. Et pour pouvoir matcher ce besoin avec les bons candidats, ce n'est plus uniquement la tâche des RH qui vont eux plutôt faire la partie sourcing et aller identifier les candidats. Et ensuite, le processus, il va être bien évidemment partagé par des entretiens qui va dans l'organisation. Et là, il faut bien savoir que ce que chacun doit faire à chaque étape.
Sauf que la critique inverse, c'est de dire, c'est pas parce que je suis chef d'équipe et je sais exactement quel profil il me faut que je sais ce que c'est qu'un bon recrutement et je peux faire rentrer à n'importe quel moment un mouton noir.
Alors, c'est vrai que nous, Pixid, on accompagne plus de 150 000 entreprises depuis 2004 pour gérer leur recrutement. Et les utilisateurs de la solution, ça va être plutôt des chefs d'équipe qui vont initier le besoin, exprimer le besoin. Il peut y avoir du contrôle de gestion ou du manager qui va pouvoir valider le besoin. En fonction des secteurs d'activité, il peut y avoir même jusqu'à 5 validations avant de pouvoir recruter quelqu'un. Et ensuite, il y a la partie RH qui va aider à la sélection des candidats et gérer la partie administrative. Donc on s'aperçoit que vraiment les tâches sont très bien partagées au sein des organisations.
J'ai l'impression que ça va durer 2 mois.
Après, ça dépend des profils, bien évidemment, entre des profils plus jeunes et opérationnels ou des profils plus col blanc.
Du coup.
Mais c'est pas parce que ça veut dire que c'est plus long que c'est moins collaboratif ou plus collaboratif. Aujourd'hui.
Non, mais plus c'est long et plus vous perdez des candidats.
Alors, c'est vrai qu'on est dans un monde où le marché du travail va très vite. Les candidats viennent, arrivent, il y a des solutions pour aller solliciter les gens. Il y a beaucoup plus de turnover qu'avant aussi, donc le travail de recrutement, il est quotidien pour les entreprises, et donc là, c'est pour ça qu'il faut avoir des process qui sont efficaces pour réduire donc ce temps de recrutement et que ça soit efficace et qu'on trouve la bonne personne.
Donc pour vous, il faut le recrutement collaboratif, c'est une équipe pluridisciplinaire qui va faire face à un candidat. L'équipe, c'est chacun son tour ou on fait un petit meeting ensemble? Ça se passe comment?
Alors c'est vrai que quand on s'équipe, donc notamment avec une solution comme Pixid, c'est de pouvoir vraiment identifier la bonne tâche à la bonne personne au bon moment et donc suivre un process et être notifié quand c'est à moi d'effectuer un entretien, d'écrire un compte rendu et donc de passer après au niveau à la prochaine étape de recrutement. Et dans la réalité, quand il n'y a pas d'outils, on sait très bien qu'on peut avoir des CV sur un bout de papier ou dans des emails. Les opérationnels font des demandes le vendredi soir à 18h pour un recrutement lundi matin, donc ils n'ont pas assez anticipé. Les RH, quand ils ont sourcé les candidats, ils les envoient également au manager et ils attendent les réponses. Donc voilà.
Donc c'est un outil de suivi, quoi. Ça évite la perdition de candidats, de temps, les oublis.
En fait, l'aspect collaboratif nécessite de s'outiller. Aujourd'hui, on peut plus l'écosystème, notamment des solutions RH, permet justement avec des interfaces, notamment en API, de pouvoir en fait partager l'information à travers différents systèmes pour que chaque, encore une fois, chaque responsable de sa tâche l'effectue et la transmette et la mette dans le
Est-ce
système.
Est-ce qu'il y a des fois où dans votre équipe pluridisciplinaire, il y en a qui disent attendez, là, je suis pas compétent en fait pour faire ce recrutement, je passe mon tour?
Alors, un recrutement collaboratif, c'est pas obligatoirement de tous participer aux entretiens et donner son avis sur un recrutement. C'est plutôt avoir un process, comme je le disais, efficace où le besoin, il est anticipé, il est bien documenté en amont. Les managers le valident ou non pour pouvoir justement faire la dépense et recruter la bonne personne. Et les RH ont le bon niveau d'information pour pouvoir identifier le bon canal de recrutement et le bon candidat. Et si ces informations-là ne sont pas bien transmises, en effet, après, l'identification du candidat peut être très mauvaise par rapport aux besoins initiaux du chef d'équipe.
Comment on arrive du coup au bon candidat? Parce qu'en fait, la multiplication des regards font que si ça se trouve, on n'y arrive pas en fait à s'accorder sur un profil.
Alors, il y a toujours une décision finale par généralement le chef d'équipe ou le manager sur la personne qu'il souhaite recruter. Quand on parle de recrutement collaboratif, il faut que ça soit justement efficace pour pouvoir gagner du temps sur le process, mais également gagner de l'argent pour éviter de recruter la mauvaise personne, parce qu'on connaît tous les conséquences d'un mauvais recrutement en termes de coûts, de formation, de salaire, de ce genre de choses.
Et là, vous n'avez pas Jean-Pierre qui a participé au recrutement collaboratif qui dit « je vous avais dit au moment de mon étape qu'il ne fallait pas le prendre, personne ne m'a écouté, tant pis pour vous ». Alors, vous faites le suivi de votre solution, en fait, c'est le service après-vente.
Non, mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus de solutions pour après évaluer a posteriori les recrutements, ouais. Côté recruteur et côté candidat, parce qu'on sait que je crois qu'il y a à peu près 30 ou 40% des candidats qui souhaitent quitter leur job dès le premier jour de l'onboarding, donc parce qu'ils ont une mauvaise expérience sur la partie recrutement. Et également côté recruteur, c'est important aussi d'aller évaluer pour voir que le candidat qui a été identifié correspond bien aux besoins. Et donc là encore une fois, il faut que ce
donc ça arrive.
Ça arrive, bien voilà. Évidemment, il n'y a pas de solution miracle.
Eh ben, c'est une bonne nouvelle de le dire. Je veux dire qu'il n'y a pas de solution miracle. Merci beaucoup Antoine Poiron d'être venu nous voir, directeur offre sourcing et partenariat chez Pixid. C'est la fin d'Happy Boulot le Mag. On se retrouve la semaine prochaine avec un best-of de tous les sujets RH qui font peur parce que c'est Halloween. À bientôt sur BFM Business.
BFM Business, Happy Boulot le Mag. L'émission qui vous sort de votre boîte.